Jacques Porchat, Formose et Spiridine. Il est très dangereux dans le pays des fées de maltraiter même involontairement les animaux que le hasard nous présente, car ce sont peut-être des esprits cachés sous ce déguisement. Et les violences qu'on leur a fait subir ne restent jamais impunies. En revanche, les bons traitements dont on use envers ces génies métamorphosés sont toujours suivis de quelques récompenses. Une jeune châtelaine, mariée depuis 6 mois, ayant aperçu dans une allée de son parc un pauvre scarabée que des fourmis rousses entraînaient chez elle pour le dévorer, daigna se baisser pour délivrer la malheureuse petite bête, ce qu'elle ne put faire sans essuyer quelques morsures des fourmis indignées. À peine eut-elle accompli cet acte charitable que l'insecte, ayant pris soudain la taille et la figure humaine, devint une belle femme aux cheveux dorés, au teint de lys et de rose, aux yeux bleus où brillait une douce majesté. Elle prit la main de la jeune mariée et lui dit d'une voix mélodieuse « L'enfant auquel vous donnerez le jour sera la fille la plus belle et la plus spirituelle du monde. » Après avoir ainsi parlé, la fée disparut. À quelques pas de là, la jeune femme, rêvant à cette merveilleuse aventure qui la transportait de joie, ne vit pas un serpent qui traversait le chemin, en sorte qu'elle lui marcha sur le bout de la queue. Le serpent siffla, se dressa d'un air terrible et dit à la châtelaine « Je ne vous ôte rien de ce que ma sœur vient de vous accorder, mais ce que je vous donne le réduira de moitié. » Troublée de ces paroles obscures et menaçantes, la jeune mariée retourna chez elle, fort inquiète. Elle garda néanmoins le silence sur cette double aventure. Quelques mois après, la jeune châtelaine donna le jour à 2 jumelles, dont l'une parut d'abord d'une beauté surprenante et l'autre d'une affreuse laideur. « Ah, je crains bien, dit la mère en les considérant avec tristesse, que chacune de mes filles n'ait jamais que la moitié de ce qui rend aimable. » On la pressa de s'expliquer, et cette fois elle raconta ce qui lui était arrivé dans l'allée du parc quelque temps auparavant. Les 2 petites filles vécurent, elles grandirent ensemble. Et le fâcheux pronostic de la mère se vérifia. L'une, qu'on appela Spiridine, avait fait paraître dès son plus jeune âge une rare intelligence. Elle ne disait, elle ne faisait rien qui ne fût à propos. Sa conversation était pleine de charme et les discours les plus agréables s'échappaient de ses lèvres, comme la source limpide jaillit du rocher. On oubliait tout auprès d'elle, même sa laideur, qui était cependant prodigieuse et n'affectait pas moins sa taille que sa figure. L'autre jumelle, qu'on avait nommée Formose, était toute belle, mais, hélas, elle n'avait pas une étincelle d'esprit, louable en ce point seulement qu'elle connaissait sa simplicité et l'avouait avec une ingénuité touchante. Au reste, Formose et Spiridine étaient douces et bonnes, et surtout tendrement attachées l'une à l'autre. Chacune ressentait pour sa sœur cette affection native qu'on remarque fréquemment chez les enfants jumeaux. Si quelque chose avait pu consoler les parents de voir une de leurs filles si sotte, et l'autre si laide, ça aurait été l'amitié parfaite qui les unissait. Elles se préféraient l'une l'autre, se faisaient valoir à l'envi, comme si chacune eût cherché dans sa jumelle de quoi se compléter elle-même. Si des regards de compassion s'arrêtaient sur le visage disgracié de Spiridine, elle disait « Ne me plaignez pas, Formose est belle pour deux. » Formose elle-même trouvait parfois sur ce sujet des choses agréables que le cœur lui inspirait. Un jour que Spiridine l'avait aidée à soutenir une conversation, elle s'écria naïvement « Oh, que j'ai d'esprit quand tu parles !» D'ordinaire, si l'on adressait à Formose une question qui l'embarrassa, elle invitait d'un coup d'œil Spiridine à répondre pour elle, ce qui était bientôt fait. Puis elle ajoutait timidement « Ma sœur vous a dit ma pensée. » Un jeune seigneur du voisinage nommé Gloridan, qui avait à lui seul en abondance les avantages que le serpent avait répartis entre les deux sœurs, vit Formose à la promenade, et il en devint amoureux. C'est qu'il ne l'avait pas entretenue et n'avait pas imaginé qu'il y eût si peu d'esprit sous tant de charme. Cependant, il s'en aperçut dès la première visite, et peut-être s'en serait-il tenu à celle-là, si Spiridine n'avait pas assisté à l'entrevue. Formose ne savait pas vivre sans elle. D'ailleurs, ayant à cœur cette fois que Gloridan ne s'ennuya pas en sa compagnie, elle avait eu soin de retenir Spiridine à ses côtés. Dans une position si délicate, cette ingénieuse personne sut prendre part à la conversation avec une si heureuse adresse et faire si bien valoir Formose que le jeune seigneur finit par se faire illusion sur le mérite de cette belle personne et la quitta avec l'idée qu'elle était plus aimable qu'il n'avait jugé d'abord. Le temps lui avait trop peu duré dans cette première visite pour qu'il n'en fît pas bientôt une seconde. Le même artifice lui en fit désirer une troisième. Enfin, il ne laissa plus passer un jour sans rendre ses devoirs à ces dames, trouvant auprès d'elles tout ce qui charme les yeux et l'esprit. D'ordinaire, il se plaçait entre elles, en tournant un peu la tête du côté de Formose, sur qui ses yeux se portaient tout naturellement. Puis il prêtait l'oreille avec délice au discours de Spiridine, et, par quelques mots jetés à propos, il provoquait ses spirituelles saillies, ses contes charmants, ses réflexions vives ou touchantes. Formose n'était pas sans dire aussi quelques mots. Si Gloridan lui adressait la parole, elle savait bien répondre à propos « oui » ou « non » ou « comme il vous plaira » ou bien encore « je ne saurais ». « Je ne voudrais pas vous donner cette peine. » Si la réponse était un peu difficile, fidèle à son habitude de chercher sa pensée dans l'âme de Spiridine, elle disait « Demandez à ma sœur. » Elle avait du moins l'aimable qualité de trouver un plaisir ingénu aux mots heureux qu'elle lui entendait prononcer. À peine s'était-il échappé des lèvres de Spiridine que Formose les adoptait comme siens et rougissait modestement des éloges qu'ils attiraient à son autre elle-même. Avec le temps, les illusions de Gloridan cessèrent, et il vit chaque sœur telle qu'elle était. Alors, il arriva une chose bien malheureuse. C'est que ce jeune seigneur, qui avait été d'abord uniquement séduit par la beauté de Formose, fut également capté par l'amabilité de Spiridine, au point de se sentir partagé entre elles, ou plutôt de les aimer également toutes deux à la fois. Cependant, Une situation si bizarre ne pouvait durer, et il allait être obligé de se prononcer définitivement. Les deux sœurs observaient son trouble et son embarras. Elles en devinaient la cause. Mais quoiqu'elles fussent également charmées de Gloridan, chacune aurait cru se faire tort à elle-même de le ravir à l'autre. « C'est toi qui es aimée, » disait la belle. « Non, c'est impossible, » disait l'aimable, « et je ne lui pardonnerai pas d'avoir assez mauvais goût pour me préférer à Formose. » Et pourtant, un jour que Spiritine avait été plus agréable encore que de coutume. Gloridan, ravi, courut au père, lui demandait un entretien secret, et après lui avoir fait une humble révérence, il lui dit d'un ton solennel. « Seigneur, je vous supplie, si vous ne trouvez pas que je sois indigne d'une si haute faveur, je vous supplie de m'accorder. » Il allait poursuivre lorsqu'il vit soudain paraître Formose, qui traversait à l'improviste la terrasse où il se trouvait avec le père. Elle lui adressa au passage un regard et un sourire, et cette vue le rejeta tout à coup dans sa première hésitation. Comme il restait bouche close, sans achever la phrase commencée, le père lui dit avec une politesse cérémonieuse « Que souhaitez-vous, Seigneur, que je vous accorde ?»« Accordez-moi, » repartit Gloridan, qui ne savait comment se sortir de là. « Accordez-moi, Seigneur, le beau lévrier avec lequel nous chassâmes avant-hier. » Le père, que la solennité de la demande avait préparé à toute autre chose, accorda le lévrier. Mais il eut beaucoup de peine à dissimuler sa mauvaise humeur. Que de fois le trop amoureux Gloridan ne demanda-t-il pas au ciel de lui ôter son goût pour l'une ou pour l'autre des deux jumelles, de lui faire paraître la sotte moins jolie ou la laide moins aimable. Plus il prolongeait ses assiduités auprès des deux sœurs, plus il se sentait attiré de l'un et de l'autre côté. « Vous verrez, » disait le père à sa femme, « que pour avoir deux filles, nous n'en marierons aucune. » C'est ainsi que l'œuvre d'une méchante fée rendait toute la famille malheureuse et désespérait Gloridan. On causait dans le voisinage des visites du jeune seigneur. On se demandait ce que signifiait cette longue poursuite. Plusieurs prétendaient que le beau Gloridan ne cherchait qu'un passe-temps agréable et que jamais il n'épouserait ni la sotte Formose ni l'affreuse Spiridine. Le père, de plus en plus mécontent de ses lenteurs, allait enfin le prier de mettre un terme à ses assiduités. Lorsque Gloridan prit le parti de s'expliquer et fit la plus singulière demande qu'un épouseur eût jamais faite. « Seigneur, dit-il au père, il y a longtemps que je désire de toute mon âme obtenir de vous une faveur qui fera, si vous me l'accordez, le malheur de ma vie. J'aime passionnément, mesdemoiselles, vos filles. Je vous supplie de m'accorder l'une d'elles pour femme et d'être persuadée que je serais inconsolable de ne pas obtenir l'autre. » Le père fut bien surpris d'une demande si étrange et il ne put s'empêcher d'en témoigner son mécontentement. « C'est à vous de choisir et de vous déterminer, » dit-il un peu rudement au jeune seigneur. « Nous verrons ensuite, ma femme et moi, ce que nous aurons à résoudre. » « Mais, seigneur, je suis incapable de faire ce choix tant mon cœur et mon esprit balancent. Si vous ne daignez pas me tirer de mon cruel embarras, invitez, je vous prie, vos charmantes filles à décider elles-mêmes de mon sort. » Le père, qui désirait fort établir ses filles et qui jugeait d'ailleurs à tous égards Gloridan un excellent parti, se rendit à ses désirs et fit part à ses filles du vœu que le jeune seigneur avait exprimé. Ce fut alors entre elles un combat de générosité. Formose était d'ailleurs convaincue que Spiridine ferait mieux le bonheur de Gloridan et disait, bien sensément pour une sotte, « Je vieillirai et n'aurai plus rien pour lui plaire. » Spiridine, de son côté, n'avait qu'à se regarder dans le limpide canal qui bordait le jardin du château pour se persuader que Formose serait amèrement regrettée par Gloridan aussitôt qu'elle-même serait devenue sa femme. Un jour qu'elle était assise au bord de ce canal et qu'elle se regardait dans l'eau, car toute affreuse qu'elle était, elle ne manquait pas de saisir chaque occasion qui se présentait d'observer son image, disant qu'elle voulait s'accoutumer à sa laideur et qu'elle serait trop malheureuse si, venant à l'oublier un jour, elle était forcée de renouveler connaissance avec sa figure. Spiridine, au moment où sa sœur venait de la serrer dans ses bras avec une étrange vivacité, sentit qu'il se passait en elle quelque chose d'extraordinaire. Elle jeta les yeux sur le canal et poussa un cri de surprise. Penchée sur l'eau transparente, elle y avait vu, non pas son image, mais celle de Formose. Elle se retourna sur le champ avec l'idée que sa sœur était là. Mais elle n'y était plus. Spiridine se trouvait seule au bord du canal. Elle se lève en sursaut, s'observe elle-même et voit ses mains, ses bras, sa taille merveilleusement embellie. Troublée, hors d'elle-même, elle court vers le château en appelant sa sœur. « Formose, ma chère Formose, où es-tu ?» Le père, la mère et Gloridan, qui se trouvaient alors au château, vinrent à sa rencontre et lui demandèrent à quoi elle songeait. On la crut en délire. « Mon enfant, dit la mère éplorée, reviens à toi. Pourquoi donc t'appeler ainsi toi-même ?» « Belle Formose, dit Gloridan, c'est vous-même que nous voyons et nous allons chercher ensemble Spiridine. » « Non, non, croyez-moi, c'est Spiridine qui vous parle, si changée qu'elle vous paraisse. » « Ou plutôt, mais pourquoi vous dire ce que je soupçonne et ce que j'éprouve, puisque vous ne sauriez le croire ?» Une personne sensée n'affirme rien qu'elle ne puisse prouver. Ce qui se passe en moi est tout à fait extraordinaire. Et mon sentiment intime qui m'en donne la certitude ne peut persuader que moi. C'est à la puissance supérieure qui vient de se déployer en ma faveur, c'est à elle seule de proclamer et de manifester son ouvrage. Le père, la mère et Gloridan, également stupéfaits, reconnaissaient la voix, le langage, l'esprit de Spiridine. Mais pour tout le reste, celle qu'ils voyaient était Formose elle-même. Spiridine, ayant dit qu'elle venait de quitter le canal, ils y coururent avec elle pour voir si l'autre sœur ne s'y trouvait pas encore. Ils ne virent personne. Et personne ne répondit à leur cri. Mais au nom du ciel, Spiridine ou Formose, dit le malheureux père, que faisiez-vous à cette place, au moment où se passait une si étrange aventure? Je venais, répondit Spiridine, de sauver la vie au petit chat noir que vous voyez sur cette muraille, occupé à sécher au soleil sa robe trempée d'eau. Il était tombé dans le canal où il allait se noyer si je n'étais pas allée à son secours. Dans ce même instant, ma sœur, qui venait de me presser dans ses bras, avec un merveilleux mouvement de tendresse, a disparu tout à coup. Et je n'en prenais aucun souci, la croyant passer derrière les charmilles. Pour moi, il me semblait que j'avais pris un nouvel être, et cette sensation délicieuse me parut l'effet du plaisir que j'avais eu à sauver de la mort une pauvre créature. C'est alors que, m'étant penchée sur le bord du canal, je me vis tout autre qu'à l'ordinaire. « N'en soyez pas surprise, Spiribelle, » dit le chat noir qui s'essuyait au soleil. « Vous m'avez sauvé la vie, et j'ai doublé la vôtre. Vous êtes désormais tout ensemble, Formose et Spiridine. J'ai réuni, après 16 ans, ce qu'une méchante fée avait séparé dans le sein de votre mère. Heureux parents, vous n'avez qu'une fille, mais elle n'a pas au monde sa pareille. De plus, elle atteindra aux limites ordinaires de l'âge, tandis que les deux sœurs, qui s'étaient partagé la somme des jours accordés par la nature à une seule vie, seraient mortes l'une et l'autre en leur printemps, et vous aurez devancé dans le tombeau. » Gloridan, remerciez le ciel, car vous n'aurez plus les angoisses du doute. La femme vraiment unique dont vous serez l'époux joindra pour vous plaire toute la beauté de Formose à tout l'esprit de Spiridine. » Après avoir dit ces mots, le chat s'élança légèrement de la muraille, et en touchant la terre, il devint une belle femme aux cheveux d'or, aux yeux bleus, au teint de lys et de rose. « Voilà ma bonne fée !» s'écria la châtelaine. « Oh, ma fidèle protectrice, je vous crois, je n'ai rien perdu. Je possède sous une seule figure mes deux enfants. Mes amis, observons-nous bien et gardons-nous de marcher sur quelques serpents qui diviseraient peut-être encore ce que la faveur du ciel vient de réunir. » Les noces de Gloridan et de Spiribelle furent célébrées quelques jours après. La fée daigna les honorer de sa présence.